Trainville PM. Politique.
Quand les piliers sont fragiles, ben tout s'écroule. Il faut que ça parte avec des chiffres réels et là-dessus, on construit. Il y a toujours des éléments d'hypothèse dans un cadre financier, mais ça ne peut pas être la base. Le cadre financier ne peut pas reposer sur des hypothèses.
Les libéraux ne veulent pas réouvrir l'entente avec les médecins. Nous, on veut la réouvrir. Nous, on veut remettre l'argent dans les poches des familles. 2 400 $ par enfant, les libéraux sont contre ça. Donc, il y a beaucoup de différences. Puis, il n'y a pas de corruption à CAQ.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Carl Bélanger, consultant en communication, ex-stratège politique sur la scène fédérale. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Vas-y, mon Paul, take it away, comme ils disent en latin, les cadres financiers.
Ben oui, grosse semaine pour les... On a déjà eu le cadre financier de la Coalition Avenir Québec, puis là, juste avant le débat, on attend ceux du Parti québécois et du Parti libéral. La CAQ, c'était très attendu, particulièrement par leurs adversaires. Ils ont fait quand même quelques promesses. Ils promettent de maintenir ou d'améliorer les services et de baisser le fardeau fiscal. Donc, on se demande comment ça va tenir. Il y a des éléments positif puis négatif là-dedans. L'élément positif, tu sais que la CAQ, comme le PQ, promet de rouvrir les ententes avec les médecins. Ça, c'est une intention, mais on ne sait pas s'ils vont réussir, puis on ne sait pas combien d'argent, si jamais ils réussissent, ils vont obtenir. Donc, tu ne peux pas prévoir ton cadre financier en fonction d'un montant espéré, mais loin d'être confirmé. Ils n'ont pas fait cette erreur-là.
Donc, la CAQ agit. Moi, là, évidemment, j'exprime une opinion, là, mais je suis payé pour ça. Je pense qu'ils ont... était prudent. Ils disent, mais on va essayer d'aller chercher l'argent des médecins, mais on ne peut pas présumer qu'on va, on va réussir, parce que ça peut se retrouver devant les tribunaux, tout le reste. Fait qu'on va budgéter sans inclure l'argent des médecins, qu'on récupérait des médecins. Et si jamais on récupère une somme, ben ça fera ça de plus.
Exact. Oui, c'est moi aussi, j'interprète ça comme étant de la prudence, d'autant plus qu'ils ne veulent pas rouvrir tout de suite les ententes. Il faut le rappeler, ils vont attendre d'avoir les données d'une étude avant de se lancer là-dedans.
Pour voir, pour comparer avec les médecins ontariens, notamment.
Ça, c'est l'élément de prudence. Par contre, il y en a où ils sont pas mal téméraires. Ils veulent avoir 7 % de rendement des sociétés d'État. Fais juste penser à l'Auto-Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 % dans
un
contexte
veut dire des lotos,
où ils font la concurrence, où ils se font manger par le jeu en ligne, puis ils ont de la à faire de l'argent, si tu leur mets de la pression puis tu vas en faire une vache à lait, ça va être assez difficile.
Ça veut dire qu'on va retourner d'un bar des... comment les
machines... Les vidéos poker, je ne veux pas dire que c'est ce qu'ils vont faire, mais à tout le moins, ça va être difficile. Peut-être tout simplement qu'ils ne seront pas capables d'atteindre cette cible-là puis ils vont avoir moins d'argent que prévu. Et aussi, la CAQ dit ce qu'il va avoir... un effet CAQ, c'est-à-dire que par la magie d'un gouvernement caquiste, l'économie tout à coup va mieux performer. Ouais. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose?
Ça, j'ai un petit problème.
L'effet libéral.
Ah,
les libéraux promettaient la même affaire en 2014.
Et ça a-tu marché?
Ben, c'est parce que c'est impossible d'isoler l'effet du gouvernement libéral et de savoir dans quelle mesure est-ce que ça a augmenté la croissance de l'économie. On sait que la croissance a été très bonne, mais c'est entre autres à cause de décisions du privé puis du contexte économique mondial.
C'est pas
à cause du gouvernement libéral, donc tu ne seras jamais hors de tout doute.
Carl?
Les partis sont toujours très, très pressés à prendre crédit quand ça va bien puis à blâmer les autres quand ça va mal.
Surtout en économie, c'est vrai.
La réalité, c'est que les gouvernements ont... pas beaucoup d'influence sur la conjoncture économique. Il y a tellement de choses, surtout avec l'économie d'aujourd'hui. Donc, c'est trop facile de dire l'effet CAQ, l'effet libéral, on va réussir. Mais bon, ça fait partie du plan de marketing, évidemment.
Mais pour être clair, Paul, dans le fond, la CAQ prévoit une croissance économique pas mal plus élevée que ce que les économistes prévoient.
De 0,5 % par année.
De plus, ça veut dire quoi? 700 millions de plus de revenus?
Écoute, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est substantiel.
Ouais.
Ça semble le genre d'ajustement que tu fais en regardant ton cadre financier pour être sûr que ça arrive avec un équilibre à la fin.
Il y a besoin d'avoir une entente avec l'ALENA, sinon ça n'arrivera pas.
Oui, ça va faire mal à tous les partis, en effet.
Ouais.
Mais il y en a qui sont mieux placés que d'autres pour critiquer la CAQ. Dans la catégorie des moins bien placés, il y a les libéraux. Souviens-toi, leur cadre financier en 2014, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Qu'on allait avoir des augmentations annuelles supérieures à 3 % en éducation, en santé. On le sait, ça n'a pas été le cas. Leur cadre financier est un document assez sommaire.
Et ils ont blâmé, évidemment, le gouvernement précédent du PQ
pour
leur non-respect. Là, ils ne pourront pas blâmer. Quiconque va se retrouver au gouvernement ne pourra pas blâmer son prédécesseur parce que la vérificatrice générale, elle a fait le portrait de l'état des finances. Là.
Puis ça, on peut féliciter les libéraux d'avoir accepté cette suggestion-là puis d'avoir demandé à la vérificatrice générale de brosser un portrait indépendant des finances publiques juste avant le déclenchement de la campagne électorale.
Très bien. Carl, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus?
Mais moi, je trouve ça intéressant que les libéraux n'ont toujours pas déposé leur cadre financier parce que c'est le gouvernement sortant, ils ont tous les chiffres entre les mains. Je pense qu'évidemment, ils voulaient absolument mettre la pression sur François Legault pour qu'on parle du cadre financier de la CAQ puis qu'on oublie un peu le bilan libéral, et c'est ce qu'on voit présentement à l'œuvre.
Mmh. Tu veux-tu nous parler vite, Carl, avant d'aller à la pause, de ce qui se passe à la ville de Toronto?
Écoute, à Toronto, pour ceux qui ne le savent pas, le nouveau premier ministre Doug Ford a décidé de couper de moitié le nombre des élus. Il a fait adopter une loi cet automne, la loi ce printemps, c'est-à-dire la loi 5, qui faisait passer de 47 à 25 conseillers municipaux. Une économie de 25 millions. Le problème, c'est qu'il n'en a jamais parlé pendant l'élection, puis il l'a mis en place en plein milieu de l'élection municipale. Alors évidemment, tu peux t'attendre à une levée de bouclier, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des contestations judiciaires et ce matin, c'est tombé, là, ça fait quelques minutes, la Cour supérieure de l'Ontario a annulé la loi, a mis un wrench dans le plan de Doug Ford, mon ami. La Cour dit que Doug Ford a agi de manière anticonstitutionnelle, sans les consultations préalables à la loi et sans aucun motif d'urgence d'agir. Écoute, les candidats étaient en élection, puis la loi faisait passer le nombre de sièges de 47 à 25, c'était un peu le chaos.
Mais je comprends, alors, je comprends. Mais là,
c'est ça. Alors, le juge était très cinglant. Il dit, dans son jugement, il dit qu'il n'y a aucune difficulté à conclure que la mise en œuvre de la loi 5 fait entrave à la liberté d'expression des candidats.
C'est toujours populaire, ça, hein? Un parti qui propose de diminuer le nombre de, ce soit le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de députés, parce que on vit à une époque où les gens pensent, pour la majorité d'entre eux, que les élus, dans le fond, ils servent à rien. Puis quand ils sont élus, ils sont là pour s'en mettre plein poche. Puis ils sont pas. Alors,
c'est ça. Mais on n'en veut pas plus, on en veut moins.
Mais c'est ça, complètement c'est irresponsable. C'est complètement irresponsable parce qu'à un moment donné, si tu réduis sans cesse le nombre d'élus, quand tu vas vouloir le voir, ton conseiller ou ta conseillère, là, ben, il va falloir que tu attendes 3 puis 6 mois pour pouvoir avoir un rendez-vous parce que, tu sais, à un moment donné, il y a toujours bien une limite à ce qu'une personne peut faire de ses journées.
C'est ça. Et là tu parles d'une belle question, tout le principe de la représentation, de la représentativité. À Toronto, présentement, c'est un élu pour 56 000 personnes. Sous Doug Ford, ça serait devenu un élu pour 105 000. Donc, il y a toute une marge.
Puis, et Montréal,
c'est un pour 16 500.
Ben, tu vois, il y en a qui vont dire c'est trop, là.
Mais justement, moi, l'exemple de Toronto est souvent utilisé par les gens à Montréal qui disaient avant même là, ce que M. Ford voulait faire, qui disait qu'à Montréal, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus municipaux, puis il y a plusieurs politiciens, entre autres François Legault, qui a déjà dit, ben, il me semble qu'il y en a trop, là.
Moi, je suis pas d'accord.
Il n'en parle pas en campagne électorale actuellement.
Moi, je te le dis tout de suite, là. 16 500 électeurs pour un conseiller ou une conseillère municipale, là, regarde, c'est vrai que ça coûte plus cher, mais quand t'en as besoin, là, il y a plus de chances que tu le vois à 16 500 qu'à 56 000 pour conseiller.
Tout à fait raison. Ceci dit, Montréal est vraiment la ville au Canada, la ville majeure où c'est le plus petit nombre d'électeurs par conseiller.
Ouais.
Il y a peut-être un débat à avoir, mais le problème, c'est qu'avec Doug Ford, il n'y en a pas eu de débat. C'est arrivé par surprise.
On s'entend. On va s'arrêter là-dessus, Carl. Puis je sais que si j'ouvrirais ligne, les auditeurs, je suis presque convaincu que la majorité d'entre vous me direz, là Bernard, là, t'exagères, là, on pourrait... Mais je vous le dis, j'ai été député. À un moment donné, si tu veux donner du service aux citoyens, ça prend des conseillers pour servir le citoyen. On va s'arrêter, on continue après la pause. De retour avec Carl et Paul. Paul, les aînés qui sont en train de devenir un thème important de l'élection?
Oui, il y a eu pas mal d'annonces la semaine dernière, une journée sur deux, on en parle particulièrement, les libéraux, puis la CAQ, puis le Parti québécois aussi.
Oui.
Il y a eu, entre autres, les stationnements
dans les
hôpitaux.
Oui. Là, il y a eu un petit moment d'hésitation parce que je devais effectivement te dire ma surprise.
Dis-moi ça.
Ma surprise de voir les libéraux arriver puis dire « Si vous nous réalisez, les amis, que vous allez voir votre papy dans un CHSLD, votre stationnement sera gratuit et dans les hôpitaux, les deux premières heures seront gratuites.
»
Écoute, je me suis dit, coudonc,
il y a un petit problème. Hein? Le problème étant que cette mesure-là, elle était pas bonne selon les libéraux il y a un an ou deux. Souviens-toi, à la période de questions, les caquistes talonnaient les libéraux en disant ça n'a pas de bon sens qu'il y ait une telle variation dans le coût des stationnements d'un établissement à l'autre, puis que ça coûte si cher quand tu vas visiter un proche qui est malade ou quand toi-même tu t'en vas te faire soigner.
Et Gaétan,
c'est déraisonnable. Et M. Barrette disait, écoutez, c'est des démagogique de la part de la Coalition Avenir Québec. Puis nous, on fait le choix. Ce qui est important, c'est préserver l'intégrité du système de santé publique. Puis on veut mettre l'argent dans les soins, pas dans les stationnements. C'est la petite politique. Puis finalement, la petite politique, ça a l'air bien le fun puis bien profitable en campagne électorale.
Est-ce que c'est Gertrude qui arrive puis qui dit, voilà, faut s'occuper des gens? Ils ont vu la lumière grâce à Gertrude?
Je ne penserais pas.
Non,
je pense que ça faisait partie, Carl, de leur plan de campagne.
Oui, donc là, ils disent, les stationnements, ça va être à coût raisonnable. Fait que, ça montre toute la difficulté de faire campagne quand tu fais campagne sur ton bilan et non pas juste en critiquant les autres puis en disant ce que toi, tu vas faire. C'est toujours plus difficile. Puis un autre exemple, je t'avais parlé vendredi dernier très brièvement de la visite de M. Couillard dans un CHSLD. Puis mon collègue Tommy Chouinard qui a rapporté plus en détail la visite. Puis c'est un autre exemple de comment c'est difficile pour les libéraux de faire campagne sur leur bilan. M. Couillard dit, on va abolir les échelons salariaux inférieurs. Donc, quand tu commences, par exemple, comme préposé aux bénéficiaires, mais ton salaire est plus élevé dès le départ pour faciliter le recrutement à cause de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît là-dedans. Puis il s'est fait dire, ben, pourquoi pas avant? Pourquoi c'est maintenant en campagne électorale que vous le faites?
Ben oui.
Puis M. Couillard disait, ben, il y a plein de choses qu'on a faites quand même depuis le début de notre mandat. Puis eux disaient, ben, on ne les voit pas. On ne le voit pas, ce que vous avez fait. Et enfin, M. Couillard a dit 1 500 places de plus en CHSLD. C'est ce que les libéraux promettent. Or, depuis 2011, le nombre de places a diminué de 900. Donc, c'est correct les augmenter, mais pourquoi ne pas avoir commencé par les geler et avoir évité la réduction? Puis écoute, j'ai pas besoin de... On en a déjà parlé souvent ici, des problèmes dans, entre autres dans les CHSLD qui ont été soulignés à plusieurs reprises par la protectrice du citoyen. Ouais. Même à la fin du gouvernement Charest, il y avait un rapport très, très critique de la protectrice à l'époque et les constats, pour l'essentiel, n'ont pas vraiment changé.
Les bains, le manger mou...
Les patates en poudre, c'est spectaculaire. Pour les médias, on en parle beaucoup, mais c'est pas la principale préoccupation sur le terrain.
Je veux bien Paul, là, mais...
Non,
Colin de Lynn, quand ça goûte le torieux, là, puis c'est supposé...
T'en as-tu déjà mangé les patates en poudre?
Oui, puis c'est quoi, je veux pas triper bien, bien fort.
Ben, moi, je pense que la base, c'est quand même le nombre de préposés aux bénéficiaires, s'assurer qu'on en ait assez, qu'ils soient bien payés.
On s'entend?
Oui,
on s'entend.
Les patates,
c'est supposé
ça fait des
être un milieu de vie, le CHSLD, hein? Puis là, actuellement, plus souvent qu'autrement, c'est un maudit mouroir. C'est ça qui s'est devenu.
Oui, mais c'est pas le principal problème, c'est pas les patates.
Ben mettons que ça aide pas.
Écoute.
Toi, tu dis c'est le personnel.
Oui.
Il manque de monde pour s'occuper de
mais
notre
monde. Mais toi, tu dis les patates peuvent venir avec le personnel.
Oui.
Toi, t'es pour l'addition des bonnes idées.
Exact, Paul.
C'est très positif, vraiment.
Carl,
parle-nous. J'aime ça les patates. J'aime ça les patates.
T'aimes ça les patates? Moi aussi, j'aime ça les patates. Bon. Citoyenneté, mon ami. Alors là... pourquoi tu veux nous parler de ça, là, de citoyenneté?
Mais écoute, je vais te faire le topo en 30 secondes.
Vas-y.
Il y a deux fils d'espions russes qui se sont vus retirer leur citoyenneté canadienne par le gouvernement. Ils sont allés en cour, ils ont gagné, ils ont eu leur passeport canadien. Les fils d'espions russes étaient dans une famille russe qui était cachée, incognito, qui était undercover, comme on dit, au Canada dans les années 80. Ils sont nés en Ontario, mais voilà, les espions se sont fait arrêter, se sont fait expulser des États-Unis il y a une dizaine d'années. Et là, le gouvernement canadien a dit « Ah ah, ces gens-là ne sont pas citoyens canadiens ». Donc, on va au principe fondamental qui est en place depuis 1947 au Canada. Est-ce que la citoyenneté est fondée sur le lieu de naissance, indépendamment de la nationalité ou du statut des parents? C'est la pratique au Canada. Lors du Congrès conservateur, les délégués ont adopté une motion pour changer le système.
Ils
veulent que la citoyenneté se transmette via l'un des deux parents. Donc, qu'on hérite de sa citoyenneté plutôt que de la base géographique. À ce moment-là, les libéraux sont sortis tellement fort pour attaquer les conservateurs sur les médias sociaux un peu partout. Il y avait des accusations de racisme, des accusations d'intolérance, des accusations de ci, des accusations de ça. Les conservateurs se défendent en disant « mais on veut mettre fin au tourisme, aux gens qui viennent ici pour avoir la citoyenneté canadienne à cause de notre pratique ». Mais là, le gouvernement fédéral, dans le cas qui nous occupe avec nos espions, nos fils d'espions russes, ils remettent en question la pratique lors d'un procès. Donc, ils disent le contraire de ce qu'ils disaient lorsque les conservateurs sont sortis il y a un mois là-dessus.
OK.
Donc, il y a un peu une hypocrisie qui est assez fascinante parce que le principe fondamental, il était défendu fortement par les libéraux, mais lorsqu'on arrive en cour, ah mais là, ces gens-là, ils sont nés au Canada, mais c'est pas vrai des vrais Canadiens parce que c'est des enfants d'espions, donc ça devrait pas être reconnu. Et là, jusqu'à maintenant, ça s'en va en Cour suprême, là, mais jusqu'à maintenant, là, nos fils d'espions russes, ils ont gagné à tous les niveaux. Alors,
et toi, tu penses qu'en vertu de la loi de 1947, ils devraient avoir leur citoyenneté. Là.
D'autant plus que les enfants n'étaient pas au courant que leurs parents étaient des espions. Ils sont arrivés, ils ont fondé une famille, ils ont fondé une compagnie, ils se cachaient. Les autres, ils ont grandi comme Canadiens.
Bon. Paul, t'es-tu certain, toi, que tes parents sont pas des espions?
Absolument pas. Comment puis-je le savoir? Mais c'est des espions à la retraite, si c'est des espions. En retraite, à la moitié.
Carl,
n'entrons pas dans les détails.
Carl, t'es-tu correct? Oui, non, je sais. Je sens ton malaise.
Il est absolument malaise.
Je cherchais de quel pays les espions parents de Paul venaient.
Ah, oui, ben ça sera pour la prochaine discussion qu'on aura. Donc, Paul Journet, éditorialiste à la presse.
Et fils de descendance incertaine.
Carl Bélanger, consultant communication et stratège. Merci à tous les deux.
Merci.
À demain. Restez à l'écoute. On continue dans la deuxième heure.